Tenez-vous bien, bien. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0.
Un jour tout neuf. Brigitte Patient.
Bonjour, bonjour et merci de vous réveiller avec France Inter ce matin. Je reçois un invité qui vient de la Normandie ou d'Orléans, je ne sais pas encore, mais j'ai envie de rêver un petit peu entre ces deux régions et ces villes. Ici, il fait doux, n'est-ce pas Franck Leblond ? Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Je vais lire un petit bout de votre courrier. Vous avez écrit « J'ai entendu l'annonce à la radio, et moi j'adore France Inter, ça m'accompagne depuis longtemps. J'ai un parcours qui est ce qu'il est, avec des hauts et des bas, mais toujours dans l'action. » Et puis vous écrivez « J'avais une tendance pathologique à réveiller tout le monde le matin. À une époque, je ne tolérais pas que les autres dorment si j'étais réveillée. Aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, j'ai pu canaliser ces besoins de communiquer. Internet m'a simplifié la vie. » Mais si je participe à votre émission, j'aurai une légitimité à dire à mes amis de se lever pour m'écouter. Alors là, Franck, vous réveillez tout le monde, vos amis et même ceux que vous ne connaissez pas, tous les auditeurs de France Inter.
Mais j'en suis bien désolé, quoi. Mais si je peux saluer tous ceux qui sont réveillés, c'est bien, quoi.
En fait, mais pas du tout. C'est un jour tout neuf. Vous vous rendez compte, vous ouvrez la journée là.
Faut-il être un homme tout neuf pour participer à votre émission?
Ah, ça c'est une bonne question.
C'est ça, ce serait ça peut-être le critère, non peut-être.
Faut-il être un homme tout neuf?
Un homme avec un H majuscule, hein. Il n'est pas question de faire du sexisme ou quoi que ce soit.
Bien sûr.
Mais, voilà, peut-être une question, peut-être un critère, quoi, en fait. Quoi.
Et vous vous sentez tout neuf?
De jour en jour, ouais. Mm-hmm. Je me sens progresser, quoi, en fait, quoi. Ouais.
Alors, il y a un indice qui m'intéresse. Ça fait 8 ans, apparemment, que vous passez votre vie, enfin que vous vivez sans voiture. Comment vous circulez?
Eh ben déjà il y a des moyens de transport en commun, quoi, en fait, et puis l'autostop, le covoiturage, ça peut paraître handicapant quand on vit en campagne, mais quand on vit en ville, c'est non seulement une nécessité. Vivre sans voiture, c'est un art de vivre, hein. Il y a quand même le pic pétrolier, on sait pas ce qu'on va faire. Donc, tant qu'il y a des gens qui se passent de voiture, moi, ça me rassure un peu, quoi, en fait. Quoi.
C'est drôle qu'on ait du mal à vivre son statut de piéton à la campagne, tout de même, alors que c'est là où on est le mieux pour être piéton dans la nature. On pourrait imaginer que c'est facile,
mais
pas du tout.
Ça, c'est clair, et c'est un clivage sur l'écologie, quoi, en fait, quoi. Quand on entend parler des prix des carburants, tout ça, les gens sont accrochés à cette pseudo-liberté de la voiture, en fait, mais qui est une aliénation, quoi, en fait. Quoi.
Vous voulez dire qu'on prend sa voiture pour faire 2 kilomètres quand on est à la campagne?
Ah bah, moi, j'ai vu sur le bourg où j'habitais auparavant, des gens sur un bourg qui fait 500 mètres de long, faire 3 sauts de puce en voiture, hein, pour aller à la banque, à la boulangerie et au PMU. Hein. Ça me révolte d'une force.
Alors, tout à l'heure, j'ai dit, êtes-vous à Orléans ou plutôt dans la Manche?
Bah, j'habite à Orléans là depuis le mois de juillet l'an dernier, pour des raisons professionnelles, philosophiques, sociales, et puis le territoire du Nord-Cotentin a certaines particularités, quoi, en fait. Où je m'y sens bien, j'ai beaucoup d'amis, c'est un territoire magnifique, on a quelques verrues industrielles qui sont là, quoi, en fait. Moi, des fois, ça révolte aussi. Hein,
et qu'est-ce qui fait que vous y sentez bien dans le Cotentin?
La nature, la mer, les espaces, le vert, les nuances de vert, quoi, en fait. Quoi. Vous savez, les Inuits, ils ont je ne sais pas combien de mots pour qualifier le blanc, et nous, c'est vert, quoi. Alors qu'il y a des nuances de vert... qu'on pourrait nommer ou sur lesquels il faudrait écrire pour expliquer le ressenti, quoi, en fait. Mm-hmm. Puis moi, je suis vert, hein, je suis à la fois je suis pas encarté chez les verts, mais je suis parfois plus vert de rage que politiquement vert, mais
On va parler avec vous jusqu'à 6h dans ce jour tout neuf. Je vais vous demander de sortir la photo, enfin elle est là d'ailleurs.
Elle est là, ouais.
Pendant ce temps-là, on va juste écouter notre invité d'hier qui vit elle. Il s'agit de... Comment s'appelle-t-il, notre invité d'hier et de moi, Maïté? Oui, Patrick Bayle, lui, il vit à Montélimar. Et malgré tout, il a ce point commun avec vous qui êtes parfois sur les plages de la Manche. Écoutez.
J'ai un char à voile que j'ai acheté sur Séance et Avenir.
Sur les plages de Montélimar?
Non, pas du tout. Je fais ça sur l'hippodrome. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a des centrales nucléaires sur Montélimar. Et on a tous les gens du Nord qui travaillent dans la EDF. Et quand je sors mon char à voile, vous avez tous les gens de Normandie qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, mais moi j'en ai fait en Normandie, à Granville et tout le truc. » Alors c'est un petit char à voile démontable, tout. C'est assez surprenant.
Alors, il y a plusieurs points communs avec vous.
Ça fait quelques points communs, effectivement.
Alors, vous les listez? Le premier, c'est quoi?
Eh bien, on va parler de la nature, on va parler du vent et du char à voile, quoi. C'est un point commun, quoi.
Donc, c'est, la photo est là.
Le Spitzel est une catégorie de char à voile, quoi. En fait, moi, j'ai tendance à considérer que le char à voile, au-delà du fait que c'est une activité sympathique et sans que ce soit péjoratif pour cette catégorie de la population, c'est réservé aux handicapés, c'est super facile quoi en fait quoi. Faut être assis, on va tirer sur une ficelle. Le Spitzel, c'est un petit peu plus compliqué, ça a trait à l'équilibre.
Spitzel, comment on traduit ça? Ça se traduit
voile rapide peut-être.
D'accord, ça, bah oui, ça, tout
c'est simplement. C'est une planche à voile des sables. Vous imaginez un grand skateboard avec une voile de planche à voile. Et,
d'accord.
Et bon, voilà quoi.
Et sur la photo.
Après, ça marche pareil. Hein. Ça marche comme une aile d'oiseau, comme une aile d'avion. Ça fabrique sa vitesse quoi. Et il y a des limites mécaniques à la vitesse qu'on peut produire, mais à laquelle on peut aller. Mais on peut aller à trois fois la vitesse du vent, quoi, en fait. Quoi.
Et sur la photo, on vous voit sur une plage de la Manche, c'est ça?
Voilà, la plage.
Enfin, on ne vous voit pas d'ailleurs, on voit plutôt
la plage de Cioto, on me devine, ouais.
On devine, quoi. Avec le sable et puis.
La plage de Cioto, qui fait environ 4 km de long, qui est sur deux communes, l'Épieux et le Rosel. Et je ne sais pas combien de milliers de kilomètres j'ai pu parcourir en Spitzel sur ces plages et combien de personnes j'ai pu initier à cette pratique. Mais ce qui est étonnant, c'est que si on fait du char à voile à la montagne, il y a probablement plus de gens de la Manche et de Normandie qui sont allés au sport d'hiver, qui ont pratiqué ces disciplines, quoi, en fait. Quoi. C'est ce confort, hein, la bagnole, c'est pour se donner l'impression d'avoir de l'activité. Alors qu'on a finalement beaucoup de choses autour de nous. Dont on ne profite pas assez. Quoi.
Donc, vous avez imaginé quelques instants notre invité d'hier, Patrick Bail, faisant du char à voile à Montélimar.
Bah oui.
Voilà.
Et puis en même temps. Et on peut faire du Spitzel sur des parkings. Hein. C'est
oui.
Pas, voilà,
Oui, mais c'est bien. Il ne faut pas reprocher aux gens de faire du Spitzel ou un autre sport.
Non, quelle que soit la région.
Vous qui êtes un sportif accompli, on en parlera, hein,
ouais.
Puisque vous êtes quand même au dé.
J'ai un peu perdu l'envie de pratiquer, quoi, en fait.
Mais, ah bon?
Mais le sport reste une passion, quoi, en fait, quoi. Ouais.
On va en parler.
Éducateur sportif, d'ailleurs.
Mais oui, mais c'est pour ça, je vous dis, on en parlera, parce que c'est une étape importante dans votre parcours.
Oui, ça a été très formateur, quoi. Ça a été très formateur.
Pour l'instant, on va passer quelques instants avec l'un des fondateurs de l'affaire Louis Trio. Il s'appelle Hubert Mounier. Rien de mieux à faire sur France Inter.
Saint-Génien, dans une ville de 12 000 habitants, on a quand même plus de 600 dossiers de logement, enfin de demandes de logement, et relativement peu qui se libèrent. Donc à chaque fois qu'il se libère un logement, ben on doit gérer la pénurie. Et donc on a des dossiers avec des gens qui sont dans certaines situations, avec des enfants, avec de mal logés, enfin voilà. Et on essaye de faire au mieux, de trouver la solution la plus... Bon, je suis pas tout seul, hein, on est quelques-uns à réfléchir à ça, et à chaque fois qu'il y a un logement qui se libère, ben on essaye de mettre les gens dans un certain ordre de priorité pour dire aux bailleurs sociaux, voilà, nous on pense que c'est ces gens-là qu'il faut mettre.
Joël Perrineau qui nous parlait de sa mission dans la municipalité de Saint-Julien-en-Genevois. Sa mission, il travaille avec les gens.
C'est pas une mission facile de loger les gens. Quoi.
Absolument.
Je le sais parce que moi j'ai attendu mon logement social pendant 57 mois, quoi, en fait.
D'accord.
Presque 5 ans. Hein. Alors que je sortais d'HP, j'avais tous les critères pour être bien logé, quoi. Pour ça représentait une nécessité et un besoin, mais quelle galère.
Oui.
Mais je comprends bien la complexité que ça représente pour les élus et les bailleurs sociaux, mais on peut faire autrement.
Alors justement, si on a choisi ces paroles de cet invité du 18 janvier, c'est parce que. Alors, vous avez dit, je sortais d'HP, on pourra en parler, de l'hôpital psychiatrique. Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui qui est intéressant. Vous travaillez dans la construction de maisons. Et pas n'importe quelle maison.
Bah non, des maisons en paille. Alors, quand on dit, je travaille dans la construction de maisons en paille, les gens peuvent entendre que finalement, je suis bâtisseur de maisons en paille, quoi. Mais je suis pas forcément un fabricant de maisons, quoi, en fait. Je suis au cœur d'associations, au cœur de réseaux, qui œuvre dans la construction de maisons en paille, quoi.
Alors, Franck Leblond, quand vous dites ça, on voit évidemment la maison des trois petits cochons.
Ah, bah oui, mais ça, c'est de la caricature, quoi. Ça a été assez bien fait dans les années 30.
Ouais. Et si on va sur Internet voir, par exemple, le réseau, je suis allée le voir
le
hier.
Le réseau français de la construction
paille.
Ouais,
bon, il s'agit.
On voit que c'est un tout autre sérieux, quand même.
Bah oui, il s'agit de magnifiques maisons. Donc, elle est où, la paille?
Eh bien, la paille a fonction d'isolant, en fait. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Elle est généralement insérée dans une ossature bois ou entre des poteaux poutres. Ou parfois aussi, la paille a fonction est porteuse, quoi, dans la technique d'Ebraska. Et il y a plusieurs. La construction paille est répartie entre plusieurs techniques, en fait. Quoi.
Oui.
Portée par des hommes, hein, par des gens hein, qui ont une passion, quoi, en fait. Mais non, la paille...
Mais quel est l'intérêt de la paille?
La performance thermique. C'est,
oui.
C'est un isolant extraordinaire, quoi. Et puis un isolant à bas coût, et puis qui est tout à côté de nous, quoi.
Un isolant à bas coût?
Eh ben,
ah oui, à bas coût, pardon.
À bas coût.
Tout à coup, je me disais un bas coût.
Peu bon. Élevé.
D'accord. Merci. Alors, mais donc hier, par exemple...
Ça pousse dans la nature, c'est un matériau renouvelable, en fait. Quoi.
Oui.
Ça stocke du CO2, quoi. À la différence de tout un tas de modes de construction qui émettent, eux, du CO2. Hein.
Donc, c'est la paille que l'on voit dans les champs après la moisson.
Ah bah oui.
La moisson,
elle ne nécessite aucune transformation. Hein. Ça permet... Pourquoi la paille? Mais c'est parce que ça permet aussi de créer du lien sur les territoires. Hein. Ça veut dire que sur la construction de la maison, on implique à la fois l'agriculteur, comme le charpentier, le couvreur, l'électricien... Et il y a tout un tas de gens qui interviennent et qui ont tout intérêt à ce que vous fassiez votre maison en paille. Quoi, en
fait. Mais comment elle vieillit, cette paille? Est-ce que les maisons ont des durées de vie assez longues?
Bah, il y a certaines règles de l'art qu'il faut respecter, quoi. Mais aux États-Unis, dès l'apparition des botteleuses mécaniques, il y a eu des maisons en paille, donc qui ont plus de 100 ans. La plus vieille maison de paille de France est à Montargis. Elle date des années 20, quoi, en fait. Mm-hmm. Quoi. Mm-hmm. Elle a été mise au point par l'ingénieur Feuillette. Que dire? À l'époque, le magazine La Science et la Vie, qui est devenu Science et Vie, avait fait un reportage sur cette maison et on parlait à l'époque de maison isothermique, en fait, quoi. Mm-hmm. Donc c'était déjà un problème, quoi, en fait, quoi, l'isolation, quoi, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile de chauffer les maisons parce qu'on a des belles centrales nucléaires, mais ça a un coût environnemental, ça a un coût social, ça a un coût pour celui qui chauffe, hein, parce que se chauffer à l'électricité, c'est super cher, quoi, en fait. Et du coup, en construisant vos maisons en paille, vous minimisez à la fois le besoin de matériaux pour construire votre maison, mais à la fois aussi la quantité d'énergie que vous avez besoin pour vous chauffer, que ce soit pour vous protéger du froid ou vous protéger de la chaleur. Quoi.
Alors, on va pouvoir écouter la question de l'invité d'hier à propos de se chauffer, mais j'ai deux petites questions avant. Les insectes? Les rongeurs.
Eh ben,
moi, je vois la
oui,
paille,
oui, oui,
voyez,
et puis le feu, et puis l'humidité, bêtes. Et puis le feu et l'humidité.
Eh ben, oui,
voilà,
allons-y.
Mais on peut effectivement mettre sur le dos de la paille tout un tas de complications. Mais comme pour construire une maison en parpaing, une maison en bois, il y a certaines règles de l'art. Alors, les rongeurs peuvent se loger dans la paille parce qu'il y fait chaud, quoi.
Oui.
Ils y viennent pas pour manger, c'est parce qu'il y fait chaud, quoi.
Cela dit, dans les isolations classiques...
En polystyrène, hein, il y a des souris, il y a des
les
rongeurs
loirs,
aussi, quoi.
On les entend,
voilà.
Oui, ouais. C'est pareil. Ouais.
Les insectes, si votre paille a été bien récoltée, c'est un matériau pauvre, il n'y a rien à manger dessus. Donc, l'insecte peut y trouver un tout petit peu de nourriture, mais il ne pourra pas s'auto-alimenter. Et puis, si vous organisez sur votre construction ce qu'on appelle un sarcophage autour de la paille, si vous la protégez de tout ça, des insectes, des rongeurs, de l'humidité, des intempéries, eh bien, elle va faire sa fonction d'isolant, elle va vivre et elle va vivre longtemps. Quoi.
Alors écoutez, Franck Leblond, écoutez donc la question de l'invité d'hier, Patrick Bayle, à propos justement de ce que vous êtes en train de faire, donc de construire ces maisons en paille, et c'est une question à propos de la chaleur.
Franck, bonjour. J'ai appris que tu faisais donc des constructions de maisons en paille, des maisons individuelles. La question que je me pose, et je voudrais savoir comment tu fais pour chauffer, en fin de compte, ces maisons en paille.
Eh ben, après la construction paille telle qu'elle est promue, il y a un mouvement en France. C'est un mouvement qu'on pourrait classer d'écologiste, en fait, et d'humaniste aussi. Il y a probablement 95% des gens qui se chauffent au bois. C'est aussi une énergie renouvelable, en fait. Impact carbone nul, quoi, en fait.
Mais en fait, quand on va... Hier, je vous regardais aussi dans une petite vidéo sur Internet. Vous étiez devant une maison qu'on imagine en paille. Or, c'était une très, très jolie maison en bois, une construction en bois.
Il y a des très belles réalisations.
Donc, la paille, on ne la voit pas. La paille, en fait, elle est c'est un isolant. Donc, on se chauffe comme on veut dans ces fameuses maisons en paille.
Oui. Après, vous pouvez vous... Enfin, en fait, quel que soit le moyen de chauffage utilisé, ce qui est certain, c'est que vous allez minimiser votre facture énergétique, quoi. Bon. Et là, pour revenir sur le logement social, c'est quand même assez intéressant aujourd'hui dans le problème de la précarité énergétique, hein, de toutes ces catégories de population qui n'arrivent plus à payer leurs factures, de pouvoir dire on va minimiser le besoin de chauffage, quoi, en fait.
Et je pense que c'est important de vivre ses passions et de cumuler. Alors, bien sûr, il y a toujours une limite. Il faut vraiment avoir une vie très ouverte.
Franck Leblond, vous avez entendu la voix d'Isabelle Lafont qui parle de vivre ses passions.
Ah bah oui, c'est une nécessité, c'est une obligation.
Oui, vous qui vous dites dans un parcours de réhabilitation sociale, et tout à l'heure, vous avez parlé de l'HP, l'hôpital psychiatrique dans lequel vous avez passé quelques années.
Bah, j'ai pas été interné pendant des années, mais pendant 3 ans, j'ai le sentiment d'y être allé plutôt à répétition, quoi, en fait. Quoi. J'avais pris un abonnement, quoi, en fait. Mm-hmm. Quoi.
Et vous êtes aujourd'hui sorti de cette période difficile.
Depuis juillet 99, j'y ai pas remis les pieds, quoi, en fait, quoi. Je prends un traitement tous les jours et bah voilà, la part de folie que chaque homme a en lui s'est exprimée de manière un peu délirante pour moi et ça a conditionné quelques hospitalisations et puis un besoin de soins, quoi, en fait. Quoi. Mais ça n'empêche pas de vouloir vivre ses passions et puis donner de l'espoir aux gens, quoi. C'est pas si grave de passer par l'hôpital psychiatrique, quoi. Il y en a qui se rendent pas compte, mais il ferait mieux d'y aller, quoi, en fait, quoi. Et les gens qu'on conditionne à rester à l'hôpital psychiatrique, c'est pas de leur faute, quoi, en fait. C'est pas forcément de leur faute, quoi.
Et est-ce que le fait d'avoir trouvé cette voie-là qui rejoint vos convictions écologiques, on va dire, est-ce que ça a été important aussi dans votre réhabilitation sociale?
Oui, la réhabilitation sociale est pas encore matérialisée, est pas encore acquise, mais effectivement, moi, quand j'ai déliré et quand je suis parti en live, je voulais changer le monde. J'avais une vision écologiste du monde. Je parlais d'éoliennes, de panneaux solaires. Aujourd'hui, je me réjouis de voir que le monde évolue en sens et je rigole bien de voir ce qui se passe, quoi. L'écologie, c'est pas un produit, hein. C'est une démarche, c'est une philosophie et c'est une science, quoi, en fait.
Tous les matins de la semaine, de 5h à 6h, un jour tout neuf. Brigitte Patient vous invite à ouvrir la journée en direct des studios de France Inter.
Bienvenue dans ce jour tout neuf. C'est vrai qu'on aimerait bien être étudiant à l'université de la glace. Franck Leblond, vous êtes notre invité dans ce jour tout neuf jusqu'à 6h. Pour résumer un peu, vous êtes salarié d'une association orléanaise qui organise des formations à l'autoconstruction de maisons en paille.
Et voilà, l'association s'appelle Approche Paille et je suis chargé de coordonner des actions de formation qui ont lieu sur tout le territoire. On intervient chez des gens qui sont déjà passés par l'association pour faire un stage. Et pas de prototype, hein. On intervient directement à échelle 1 sur des maisons et on regroupe entre 10 et 15 stagiaires avec des formateurs de l'association, soit des professionnels du secteur, soit des autoconstructeurs aguerris. Et on organise les stages sur 2 jours et c'est à la fois un grand moment de convivialité et un grand moment d'encouragement. Et les gens ont besoin de se rassurer, hein, la construction paille, ça reste très marginal. Hein, faut pas...
Mais ça va sans doute s'amplifier, non, comme phénomène, moi, on peut imaginer.
Mon créneau, moi qui ai travaillé pour l'État au ministère de la Défense, ce serait d'institutionnaliser la construction paille. Mais les pouvoirs publics sont un peu frileux, quoi, en fait, quoi, par rapport justement à l'histoire des 3 petits cochons. Donc,
quand est-ce que vous avez travaillé au ministère de la Défense?
Eh bien, j'ai fait l'école des apprentis de la marine. Je suis rentré en 1985, en fait. Et j'en ai démissionné en 1999, quoi.
Oui. On peut retrouver un peu des étapes de votre parcours dans votre blog. Il y a une auditrice, Christelle Hulls, qui a été d'ailleurs ici sur France Inter. Elle nous dit « J'ai visité le blog de Franck. Très beau texte sur la guerre et l'égalité dans la mort. »
Ouais,
voilà.
Ouais.
On donnera les références de votre blog.
Ah,
vous
merci,
y écrivez
ouais.
régulièrement?
Bah, ça dépend, oui, souvent, oui. Bah, depuis avril 2007, j'ai dû écrire environ 450 articles, quoi, en fait.
Effectivement, c'est une adresse à visiter.
Je suis un écrivain, quoi, en fait. Je revendique pas le statut d'écrivain, même si j'ai écrit un livre. Je suis un écrivain, quoi, en fait, quoi. C'est à la fois de la thérapie et puis ça permet de faire du clair quand vous avez noté les choses sur un bout de papier. Vous libérez une partie de votre mémoire pour penser à autre chose, quoi. Mm-hmm. Et vous pouvez y revenir quand vous en avez envie, quoi, en fait, quoi.
Franck, je vous présente Edwige. Bonjour Edwige.
Bonjour Brigitte. Bonjour Franck Lebrun.
Bonjour Edwige.
Alors donc, vous reprendrez la parole un peu plus tard, hein, Edwige, à 6h10 pour votre chronique sur le thème de la chronique, c'est la chronique.
J'aime bien courir. D'ailleurs, j'ai entendu déjà des invités qui faisaient des courses style ultra-trail, des courses...
Des marathons.
Des marathons, des courses de montagne, de courses nature. Et puis de partir aussi seul, avec mon, je boucle mon sac à dos et puis je sais, je m'en vais pendant plusieurs jours, une dizaine de jours, puis je cours tout seul sur les pistes,
oui.
de village en village. Et là, j'ai des rencontres super sympas.
Alain Leroux qui était là le 9 décembre, qui nous parlait de sa façon de se déplacer, notamment en Afrique, en courant. C'est un grand sportif, Alain Leroux, un peu comme vous, Franck Leblon.
Comme je l'étais surtout. Quoi.
Ah oui, alors j'ai l'impression que voilà, vous sentez que là, vous n'êtes plus du tout sportif, comme vous l'avez été, notamment quand vous étiez éducateur sportif.
J'ai eu une pratique intensive du sport pendant vraiment très très longtemps. Quoi. Football, volley, spitzel, char à voile, beach volley... J'ai initié tout un tas de choses, quoi. J'étais vraiment un pratiquant passionné, quoi, en fait, quoi.
Mais vous avez passé le diplôme, d'ailleurs, au sein du ministère de la Défense, quand vous avez décidé d'arrêter.
C'est ce qui est extraordinaire, c'est que on a dans notre pays des institutions qui permettaient d'aller librement, de faire le choix de sa reconversion, quoi, en fait. Et pouvoir étudier avec 85% de son salaire. Ouais, c'est brillant. Et donc, le diplôme d'éducateur sportif, eh ben, ça m'en a appris sur le monde, ça m'en a appris sur l'homme, hein, psychologie, physiologie, cadre institutionnel, les disciplines individuelles, collectives. C'est brillant, quoi. Je m'en sers aujourd'hui encore au quotidien, quoi. Je me revendique, oui, éducateur sportif. Alors, pas très sportif, mais je me revendiquerai assez facilement un technicien du sport. Et puis, s'il y a des gens qui veulent apprendre à lancer le boomerang, eh ben, je suis disponible et on verra à quel point je peux l'être, quoi, en fait, quoi.
Alors voilà. Donc, le boomerang, c'est l'objet que vous avez choisi. Il est là, il est très beau, il est en bois.
Oui.
C'est moi qui l'ai fait. Il a une autre particularité. C'est vous qui l'avez fait.
Non, mais c'est, ouais, le boomerang, en fait, à une époque de...
Dites-nous sa forme d'abord, juste.
Eh ben, celui-ci, il a la forme de la lettre pi, en fait.
Et je me demande comment il peut voler.
Non seulement il vole quand on le lance, hein, l'activité du boomerang, c'est un équilibre entre le lanceur, le boomerang et la force du vent, quoi.
Mm-hmm.
Voilà, c'est un triptyque sur lequel il faut s'appuyer. C'est un trois points, ça définit un plan. Et le boomerang, c'est un bon plan, quoi, en fait, quoi. Même si le film Dîner de con a porté préjudice aux lanceurs de boomerang, ça reste assez génial. Et puis ça appartiendrait, hein, je parle au conditionnel parce que on n'est jamais tellement sûr de l'histoire du boomerang. C'est quelque chose qui appartient au patrimoine commun de l'humanité, quoi. Dans l'imaginaire des gens, on associe le boomerang à l'Australie.
Mm-hmm.
Mais les plus vieux fossiles de boomerang ont été retrouvés en Pologne, en Afrique. Et bon, voilà, c'est...
Et c'est un sport...
C'est codifié, ouais. Il y a des championnats du monde, il y a des coupes du monde, il y a des
mais on y joue seul.
Eh ben, c'est la
particularité. Vous qui êtes en train de toujours parler du lien.
Oui, eh ben, en fait... On y joue seul, on lance seul, effectivement. On est à la fois le lanceur et la cible. Hein, ça évite d'avoir à projeter quelque chose à la tête des gens, quoi, en fait.
Ah,
quoi.
Oui.
Voilà, on est à la fois comme je disais, le lanceur et la cible. Mais pour avoir enseigné, c'est un peu prétentieux, mais non, pour avoir encadré énormément d'écoles, de jeunes, d'adultes à la pratique de cette discipline, on peut pratiquer le boomerang en collectif, quoi, en fait.
Ouais. Est-ce que la rigueur, là, qui apparaît comme ça, je trouve, un peu dans votre personnalité, vous l'avez appris à l'école des apprentis de la marine à Cherbourg?
Oui, l'État conditionne à une forme de rigueur, quoi. Ne serait-ce que dans la manière de le critiquer aussi. L'État est très exigeant, mais Moi, je respecte l'État qui respecte les citoyens, quoi. À partir du moment où l'État ne respecte plus les citoyens, il y a un problème, quoi, en fait, quoi.
On va photographier le boomerang et on le mettra sur le site à la rubrique super. Un jour tout neuf. Pour l'instant, on a rendez-vous dans quelques minutes avec la Edwige de France Inter, avec son bonjour.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling.
Le soleil arrive sur France Inter, c'est au choix, soit avec Nina Simone, soit avec Edwige. Bonjour Edwige.
Birgitte, bonjour. Je me suis posé des questions cette semaine sur la chronique que je fais ici dans Un jour tout neuf de France Inter. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je le fais plusieurs fois, je le dis, et je ne sais même pas ce que c'est qu'une chronique. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire et voilà ce que j'ai trouvé. Schrochnik, deux points, qui dure longtemps et dont les symptômes ne se développent qu'avec lenteur en parlant de certaines maladies. Je viens donc de contracter une schrochnik qui va durer longtemps et avec lenteur. Bon, je l'avoue, j'ai pris peur parce que je m'en suis même pas aperçue. Alors évidemment, vous, Birgitte, vous ne savez pas pour la schrochnik, parce que vous êtes plutôt dans l'émission. Émission, deux points, action d'évacuer un liquide hors du corps, émission d'urine. Non mais ça fait peur aussi, non? Je pense qu'il nous faut que nous réagissons. Ne nous laissons pas aller, prenons notre santé à pleines dents. Première chose, mangeons sain et en équilibre. Arrêtons d'abuser des matières. Grâce à un régime élémentaire de viande sans sucre. Deuxième chose, faisons du sport pour éliminer tous ces liquides et toutes ces maladies. Alors j'ai trouvé des cours de Qigong et de Tai Chi. Hein, ça se fait un peu comme du yoga, vous voyez, mais debout. Alors c'est chinois et c'est bio quand même. C'est comme du sport un peu, mais on reste là où on est. Alors troisième chose, éliminons les stress qui s'agglomèrent dans les cerveaux et dans les capitons graisseux. Je suis allée chercher du côté des médecines en douce. Et là, je dois dire, on a le choix. Évidemment, ce n'est pas remboursé puisque c'est en douce. On peut très bien nous traiter par les plantes, comme l'homéopathie, la psychopathie, les légos et l'élément, ou rencontrer des naturopathes ou des ostéopathes. En tout état de cause, chers interrupteurs d'Inter, c'est pour vous que nous faisons les chroniques et les émissions. C'est pour vous que nous expositionnons nos corps à tous ces dangers. C'est pour vous que nous risquons notre santé alimentaire. Mais notre translucidité nous permettra de retrouver philharmonie, santé et bien-être.
Ah, ça y est, bon, on peut...
La petite virgule, hein, c'est sympa. Oui.
Merci Marianne Pichon, c'était le bonjour d'Edwige. Vous êtes en spectacle, Marianne?
Je suis en répétition et puis je vais jouer la conférence sur la dyslexie en province le 19 février à Elne.
C'est votre problème, la dyslexie?
Un peu.
Franck Leblon, vous avez entendu qu'il faut retrouver, commencer, il faut manger sain et en équilibre. Hein,
oui.
Vous avez noté cette.
Oui. Moi, je mange peu en fait. J'ai pas de plaisir à manger en fait. Quoi. Donc.
C'est vrai. Je voulais vous demander une petite recette de cuisine pour. Oui, c'est un peu contagieux évidemment la dyslexie, mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle du tout, Marianne. Donc non, vous ne cuisinez pas.
Des pâtes au beurre, quoi. Allons-y.
Ah bon.
Plus simple. Ouais. Ah, c'est des sucres lents, hein, ça permet de tenir le coup longtemps, quoi, en fait.
D'accord. Ouais. Comment allez-vous passer votre week-end, Franck Leblond ?
Eh bien ça, c'est encore une incertitude, parce que je me suis aperçu que j'ai oublié ma molécule miracle, là, et je suis conditionné à repasser par chez moi, parce que si les gens savent que j'ai pas pris mon traitement, là, ça va les affoler, quoi, en fait.
Oh,
parce
non,
que...
arrêtez.
Non, mais en parlant de chronique... Hein,
oui, c'est vrai, elle ne l'a pas fait exprès, Edwige, mais elle en a parlé, oui.
Et puis, du coup, j'ai pas ma carte vitale, j'ai pas mon ordonnance, je suis un peu démuni, donc...
Chez vous.
Voilà.
Donc,
mais je vais aller voir. Je vais passer dans l'heure, pas dans l'heure, dans le département.
Hein. Oui.
Je vais aller voir une dame de ce monde, une dame qui m'a réellement accompagné dans mon travail ces dernières années. Quoi. Je vais aller boire un café croissant ailleurs. Quoi,
c'est une fait. Rencontre importante avec vous.
Ah oui.
Avec cette femme.
Oui. Après, c'est une rencontre intellectuelle, quoi. Voilà, quoi, c'est passionnant, quoi.
On en parlera peut-être un autre matin tout neuf.
Ouais, peut-être que c'est elle qu'il faudra inviter, quoi, en fait. Quoi.
Ah, bonne idée.
Voilà.
Merci beaucoup, Franck Leblond. Vous avez fait le trajet jusqu'à ce studio, le studio 81. Nous avons ouvert cette journée avec grand plaisir sur France Inter.
Ben, merci de m'avoir accueilli chaleureusement.
Marlène s'en va la nuit tombée, elle entre ce soir toute seule. Tout au long des rues perdues, sans rouge s'efface au mur. Elle s'arrête au coin là-bas, au bas des Wildenkerle, voir si elle y trouve un gars qui perd son âme en elle. Comme Normet Sommier, il s'attire où en vallée. Comme Normet Sommier, on danse tango, java et valse avant le jour. Marlène, tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et valse, tu vas jusqu'au délire. Tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et valse, tu vas jusqu'au délire. Ses yeux s'éclatent, sans rouge s'efface au mur. Mais dans son cœur, personne ne voit le noir de son désir. Comme Normet Sommier, il s'attire où en vallée. Comme Normet Sommier, on danse en gros, java et valse avant le jour. Marlène, tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses en gros, java et valse, tu vas jusqu'au délire. Tu perds ta tête, tu perds ton âme, tu danses et tu délires. Personne ne voit au fond de toi le noir de ton désir. Java et valse, tu vas jusqu'au délire. Tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et valse, tu vas jusqu'au délire. Tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et valse, tu vas jusqu'au délire. Tu perds ta tête, tu perds ton âme, tu danses et tu délires. Personne ne voit au fond de toi le noir de ton désir.